Chapitre 40. C'était folie d'admettre que Léon Daïel pouvait devenir le mari de Corisandre. Mais alors pourquoi venait-il la voir avec son père? C'était une terrible femme que Madame de Barizel, de qui on pouvait tout attendre, de qui l'on devait tout craindre. Si elle se pouvait faire épouser par Daïel, ne pouvait-elle pas faire épouser Corisandre par Léon? Il est vrai qu'elle voulait ce mariage avec le père, tandis que Corisandre ne voudrait jamais le fils. Ce serait lui faire une mortelle injure que la croire capable d'une pareille trahison. Il avait foi en elle, en sa fidélité, en son amour. Et cependant, cette visite du père et du fils dans le couvent se prolongeait bien longtemps. Que pouvait-il se dire? Comment Corisandre pouvait-elle les écouter? C'était embusqué sous la porte d'un mégistier que Roger agitait fiévreusement ses questions, attendant qu'ils sortissent. Enfin, il les vit paraître. Ils montèrent en voiture et il put, à son tour, partir et rentrer chez lui, où il attendit Oussu. Mais Oussu ne vint pas ce jour-là. Ce fut seulement le lendemain qu'il arriva, la mine longue. Il n'avait pas réussi à trouver quelqu'un pour se charger de la lettre, et il craignait bien de n'être pas plus heureux. Les difficultés étaient grandes. Il voulut les énumérer, mais Roger l'interrompit en lui disant qu'il fallait, coûte que coûte, que cette lettre fût remise au plus vite dans les mains de Mademoiselle de Barizel. Avec du zèle et de l'argent, on devait réussir. « Soyez sûr que je n'économiserai ni l'un ni l'autre, » dit Oussu. Le lendemain, il vint annoncer qu'il avait des espérances, le surlendemain qu'il n'en avait plus, puis, deux jours après, qu'il en avait de nouvelles et d'un autre côté. Le temps recommença à s'écouler sans résultat et Roger, exaspéré, voulut agir lui-même. Il pensa à s'adresser à Mademoiselle Renée de Queyras, la tante de Christine, qui devait être en relation avec les dames irlandaises de la rue de la Glacière, comme elle l'était avec toutes les congrégations religieuses de Paris. Mais que lui dirait-il quand elle lui demanderait dans quel but il voulait avoir des nouvelles de Mademoiselle de Barizel ? « C'est une fille que vous aimez ? Oui. Que vous voulez épouser ? Non, que je veux enlever. » C'était là une des fatalités de sa position qu'il ne pouvait trouver d'aide qu'auprès de gens comme Oussu. Il se cachait de Harly et de Nougaret. À plus forte raison, ne pouvait-il pas s'ouvrir à Mademoiselle Renée ? Cependant, il fallait qu'il se hâtât d'agir, car dans le monde autour de lui, on commençait à parler du mariage de Mademoiselle de Barizel avec Léon Daïel. Ce bruit, qui tout d'abord lui avait paru absurde, s'imposait maintenant à lui, quoi qu'il fît pour le repousser. Il y avait des gens qui le regardaient d'une façon étrange, ceux-ci avec curiosité, ceux-là d'un air énigmatique. Il y en avait d'autres qui, plus naïfs ou plus cyniques, l'interrogeaient directement. « Est-ce vrai que la belle Corisandre épouse le fils du père Daïel ?» Quand il ne répondait pas, il y avait des gens qui répondaient pour lui, expliquant les raisons qui justifiaient ce mariage. La rouerie de Madame de Barizel, la beauté de Corisandre, ses mariages manqués jusqu'à ce jour, la nullité de Léon Daïel, l'avarice du père Daïel qui voulait faire passer aux mains de son fils l'argent qu'il avait eu la faiblesse de se laisser arracher par Madame de Barizel, ce qui était une opération véritablement habile. Ainsi pressé, il allait se décider à chercher un nouvel agent pour l'adjoindre à Oussu, quand celui-ci vint l'avertir tout triomphant qu'il avait enfin trouvé une personne sûre pour faire remettre à Mademoiselle de Barizel la lettre dont il était chargé. « Et la réponse à cette lettre ?» demanda Roger. « Si la jeune personne en fait une, j'ai pris mes précautions pour qu'elle nous parvienne demain. Mais Monsieur le Duc doit comprendre que je ne peux pas savoir si Mademoiselle de Barizel répondra. » Cela pouvait, en effet, faire l'objet d'un doute pour Oussu, mais non pour Roger, qui était bien certain qu'à sa lettre, elle répondrait par une lettre non moins tendre, non moins passionnée. Maintenant que le moyen de correspondre était trouvé, ils s'écrirait, ils s'entendraient, et dans quelques jours, elle serait à lui. Si ce n'était pas dans quelques jours, ce serait dans quelques semaines. Le temps n'avait plus d'importance pour eux. Grande fut sa surprise, ou plutôt sa stupéfaction, quand le lendemain, au moment où il attendait Oussu, Bernard lui annonça que Madame la comtesse de Barizel lui demandait un entretien et qu'elle était dans son salon l'attendant. Après quelques secondes de réflexion, il se dit qu'elle venait sans doute pour obtenir de lui les pièces compromettantes qu'il avait entre ses mains et au moyen desquelles il pouvait empêcher son mariage avec Daïel s'il voulait s'en servir. Il entra dans son salon, le sourire aux lèvres, décidé à se montrer bon prince et à ne pas abuser des avantages de sa position. Malgré tout, elle était la mère de Corisandre. Mais, ayant jeté sur elle un rapide coup d'œil, il remarqua qu'elle aussi était souriante et que son attitude, au lieu d'être celle d'une femme suppliante, était plutôt celle d'une femme sûre d'elle-même qui peut parler haut. C'était à elle d'entamer l'entretien et d'expliquer le but de sa visite, ce qu'elle fit sans aucun embarras. « C'est une lettre que je vous apporte, » dit-elle. « Je vous remercie, madame, de la peine que vous avez prise. » « Une lettre de la part de ma fille. » Avant de tendre cette lettre qu'elle tenait cachée, elle le regarda avec un sourire ironique. Ce ne fut qu'après une pause assez longue qu'elle la sortit de sa poche. Il reconnut celle qu'il avait remise à Oussu et ne fut pas maître de retenir un mouvement. « Mon Dieu, oui, monsieur le duc, c'est la vôtre, » dit-elle en accentuant son sourire. « L'agent que vous employez a payé des gens pour la faire parvenir à ma fille, et celle-ci, ayant reconnu l'écriture de l'adresse, n'a pas cru devoir l'ouvrir, elle me l'a remise pour que je vous la rapporte. Vous voyez que le cachet est intact, n'est-ce pas ?» Puis, après avoir joui pendant quelques instants de la confusion de Roger, elle poursuivit. « Comment n'avez-vous pas compris que cet accueil était le seul que pouvait recevoir votre lettre ?» Elle serait arrivée le lendemain de la visite de ma fille ici, il en eût été sans doute autrement. Encore sous l'influence de son coup de tête, Corisandre n'eût pas réfléchi et elle aurait été peut-être entraînée. Vous savez comme on persiste facilement dans une folie. Même quand on sait que c'est une folie, on s'y obstine. Mais après le temps qui s'est écoulé, après votre long silence, elle a pu réfléchir. Elle a envisagé la situation, elle vous a jugé, mal peut-être, mais enfin, elle vous a jugé tel que les circonstances vous montraient, et, à vrai dire, non à votre avantage. Songez donc qu'elle avait été prodigieusement étonnée, et même assez profondément blessée, de votre lenteur à vous déclarer abade, ne comprenant rien à votre réserve, et se disant que vous étiez un amant bien compassé, bien froid, ce que vous appelez, je crois, un amoureux transi. Est-ce le mot ? Elle regarda, toujours souriante, montrant ses dents blanches pointues, puis, comme il ne répondait pas, elle continua. Lorsqu'après son départ d'ici, et dans la solitude du couvent où je l'avais placé, elle a vu que vous ne faisiez rien pour l'arracher à ce couvent et que vous continuiez à vous enfermer dans votre prudente réserve, elle a trouvé que de transi, vous deveniez tout à fait glacé. La situation que vous me faisiez était vraiment trop belle pour que je n'en profite pas, et je vous avoue que j'en ai tiré parti. Aux réflexions que faisait ma fille, j'ai ajouté les miennes, qui, je l'avoue encore, n'ont pas été à votre avantage. Croyez-vous qu'il a été difficile de prouver à ma fille que vous ne l'aimiez pas, que vous ne l'aviez jamais aimée ? Est-ce que, quand on aime une jeune fille, belle, honnête, tendre comme Corisandre, on ne l'épouse pas malgré tout ? Est-ce qu'on se laisse arrêter par je ne sais quelle considération d'orgueil ? Quand on aime, il n'y a pas de considération, il n'y a que l'amour. Est-ce que, quand cette jeune fille est mise dans un couvent, on la laisse s'y morfondre et s'y désespérer ? Si elle commence par là, elle finit par se consoler et se laisser consoler. C'est ce qui est arrivé. Après avoir écouté la voix de la raison, Corisandre, qui ignorait que vous aviez chargé un agent de la découvrir, a écouté celle de la tendresse. Vous dites ? Rien, madame. Je vous écoute, je vous admire. N'allez pas croire au moins que j'exagère. Il ne faut pas juger Corisandre sur son coup de tête et voir en elle une fille exaltée et passionnée, capable de tout dans un élan d'amour. Songez qu'elle a pu être poussée à ce coup de tête par une volonté au-dessus de la sienne qui croyait ainsi assurer son mariage. Ah, vous le reconnaissez ? J'explique, rien de plus. Mais ce que je veux surtout vous faire comprendre, c'est la nature de ma fille. En réalité, c'est une personne raisonnable, douce, tendre, qui a horreur des aventures, du désordre, de la lutte, et qui désire par-dessus tout une existence régulière et calme. L'eût-elle trouvée auprès de vous, cette existence ? En devenant votre femme, oui, sans doute. Mais votre maîtresse ? On la lui a offerte, elle l'a acceptée avec un cœur ému, plein de reconnaissance pour le galant homme qui voulait bien oublier qu'elle avait eu une minute d'égarement, rien qu'une minute. Aujourd'hui, elle aime ce galant homme, la façon dont elle répond à votre lettre vous le prouve, et dans quelques jours, elle devient la femme de M. Léon Daïel. Roger, qui tout d'abord avait été foudroyé, se tint la tête haute et ferme. « Votre visite a devancé la mienne, dit-il. J'ai là certains papiers qui vous concernent. Ce sont les pièces qui se rapportent à l'enquête faite à Natchez, la Nouvelle-Orléans, Charleston, Savannah. « Ces pièces n'ont aucun intérêt pour moi, dit-elle avec audace. Même si je vous les remets. » Il passa dans son cabinet et presque aussitôt il revint avec les papiers qui lui avaient été remis par Raphaël. Madame de Barizel sauta dessus plutôt qu'elle ne les prit, et violemment, elle les jeta dans la cheminée où brûlait un grand brasier. Ils se tordirent et s'enflammèrent. Alors elle passa devant Roger, s'arrêtant un court instant. « Monsieur le Duc, vous êtes un homme d'honneur. » Il resta impassible, mais lorsqu'elle fut sortie en fermant la porte, il se laissa tomber sur un fauteuil et se cacha la tête entre ses mains.